Bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline, en l'occurrence ce soir on va parler Atari Higashi, Kashikoshi. Si vous avez deviné le sport de la semaine, vous êtes très fort, mais si vous ne l'aviez pas deviné, ce n'est pas très grave, car vous êtes là, vous êtes donc aussi très très fort. On va donc parler sumo. En seconde partie, nous brosserons un portrait de la légende japonaise de sumo, une des très très rares femmes à le pratiquer à haut niveau, Iori Koni. Non, Yorikon, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oh là, je la fatigue, bien sûr. Pour cet épisode, je serai accompagné de Mélanie Di, la jardinière du 18e, alias la lanceuse de tomates perforante la plus rapide du monde. Ça va, Mélanie?
Eh bien, le bonjour, ça va très bien.
Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Contente d'être là?
Très.
Parfait. On a aussi Camélia Di, la snipeuse des gens très impolis. Oui, elle coule dans le béton, dans leur sommeil, avec un exemplaire de Martine apprend la politesse. Donc, vous soyez bonne écoute, merci pour votre attention. C'est l'épisode 9 de la saison 2. Chères auditrices, auditeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de sumo, un art martial plus qu'un sport, où on se met des grosses mandales en slip sur du sable, c'est véridique, c'est à peu près ça. Bien sûr, je schématise évidemment. C'est un mode de vie entre tradition, très ancré dans le folklore nippon, rien à voir ici en France avec Tonton Roger et Tati Sucette complètement ivres au repas de Noël en slip, qui s'affrontent pour savoir qui a insulté son gosse le premier. D'ailleurs, Mélanie a déjà assisté à ce genre de match. Un avis?
Ah bah la famille, c'est difficile hein.
Les repas familiaux, bientôt Noël en plus.
Tu l'as subi.
Elle l'a connu même, je dirais. Et juste avant de développer ce grand art de bagarre, t'as auto-promo. Alors vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19h à 20h. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est génial. Mais aussi le mardi matin en rediff de 10h à 11h. Nous sommes bien en direct comme d'habitude. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout retrouver en podcast. Donc si vous êtes coincé quelque part en train de réfléchir à devenir conseiller municipal de New York ou... ou louer une nacelle de déménagement pour visiter le musée d'Orsay par l'extérieur, car la nuit étoilée de Van Gogh y séjourne, un tableau estimé à 100 millions de dollars, et je vous assure, c'est vrai, je l'ai déjà vu, magnifique tableau d'ailleurs, j'ai un de mes préférés. C'était pas grave, vous pouvez trouver tous les replays en tapant sur Google Aligre FM Podcast, cherchez l'émission Championne. D'ailleurs, vous avez plein d'émissions sympas, l'huile sur le jeu, cappuccino, les arènes de l'écologie, radio scénique au fil des pages. Vous aimez la musique? Chacun son tempo. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont bien en ligne. Et ça, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. On est à jour. Magnifique, extraordinaire. Quel public. J'adore faire cette émission publique. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @championne_l'émission. On va prendre un petit instant déjà. Comment ça va de cette semaine, Mélanie et Camélia? Mélanie, est-ce que ça va?
Bah, ça va très bien. Assez impressionnée d'être ici avec vous, mais c'est très chouette, je suis très contente.
C'est ta première?
Ouais.
Trop bien. Alors, ma chère Camélia, comment ça va? Alors, des projets en armistice, c'est bientôt le 11 novembre
Non, honnêtement, non. Du rangement, celui que je n'ai pas eu le temps de faire cette semaine, parce que j'ai eu une semaine très chargée. Mais ouais. Très ravie de pouvoir échanger sur ce sport très atypique.
Complètement.
Je suis très curieuse. Ah, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous apprendre au sujet de ce sport. Dont l'essor, bien sûr, ne s'est pas fait en Europe.
Ah non, clairement pas.
Mais c'est très intriguant, assez mystique aussi,
oui.
J'ai l'impression. Donc très hâte, une grande hâte de t'écouter.
Mais tu vois, c'est légendaire, mais vous êtes là pour m'aider, bien sûr.
Là, par contre, tu ne pourras pas me convaincre d'aller en faire. Hein, parce que d'habitude,
non.
On sort de l'émission,
oui,
généralement.
Voilà.
Tu parviens à me convaincre à aller pratiquer ce sport, mais là, je pense pas que ce sera le cas.
Tu peux peut-être commencer par la lutte avant de te
lancer. Ouais, peut-être
du
jujitsu à la limite. Pourquoi pas?
Direct, elle a dit la lutte.
On peut,
mais je te fais d'accord. Alors, moi, ça me fait plaisir de vous avoir. Bien sûr, un petit coucou à Sandrine, Elodie, Chai, bien sûr. Dédicace à la régie Diego Armando Maradona qui est là-bas derrière pour nous aider. Et bien sûr, le courrier des lecteurs. Alors, pour nous envoyer un message, c'est championne@aligre.org. Message cette semaine de Chalençon92. Hein, parce que Sandrine a fait les 9999 mails.
Elle a beaucoup de patience. Hein,
beaucoup,
Sandrine.
Beaucoup. 9998 spam, vraiment extraordinaire. Alors, Chalençon92. Bonjour, avez-vous vu pour le Louvre? Moi qui m'y connais en Napoléon, c'est encore un coup de la Prusse. Alors, merci Chalençon92 du message. On t'enverra une boîte de Kleenex et sache que la Prusse n'existe plus depuis 1871. Voilà, pour le féru d'histoire au passage. Alors, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, j'étais pas très loin de cet événement. Je vais vous raconter ça. J'attends qu'évidemment la musique se lance et c'est parti. Je marchais seul, sans témoin ni personne, que mes pas qui résonnent, je marchais seul. Sur Rivoli, un dimanche matin à Paris, Paris outragé, mais Paris libéré. Pariant mais riant sur la vie, virevoltant mais pensif, sur le poncif peu chrétien, de ce nouveau féru de virilité virtuelle, agressif comme Elon sentant le musk, mais vraiment, pas vraiment musclé ni rebelle, levant le bras droit de manière obsessionnelle. À qui Jean-Paul aurait mis deux en professionnel, sacré bébelle. En deux temps, trois mouvements, le shabadabada sur une polka, du jam sur une samba à ratin, Jean-Marc généreux de bonté, me mit la note de 3 sur 20. Vexé, mais après tout, 37 de le matin. J'atterrissais devant le musée, ce n'était pas la nuit, mais bien le matin. Usé de ma longue marche, j'entendis clairement « Est-ce que tu m'entends, Eo ? Est-ce que tu m'entends, Eo ?» Ne comprenant absolument rien à la situation, je voulus appeler Léna, pas l'école, l'autre, mais Léna m'a pas répondu. Pourtant, le téléphone sonnait toujours deux fois. Et je pensais, ça, c'est vraiment toi. Je n'irai donc pas à New York avec toi. Toute la nuit, faut pas déconner, à nez avec Rachida Dati. Tu vois la tipa, que faites-vous ici ? M'ignorant, elle déclara, Nicolas, fous ta cagoule, sinon t'auras les glandes, t'auras les boules. Il ne semblait pas descendre du ciel et des étoiles. De shérif, entre elles, ne parlaient que de poids de mesure. Par contre, il descendait bien d'une nacelle, celle-là même opérationnelle, collée à la fenêtre du Louvre. C'était donc ça, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Fenêtre sur cour, royal au bar, bah papa. Open bar comme l'US de Trump, au racisme sans pacifisme, je restais de ice, pardon, de glace, devant Brice Hortefeux arrivant en T-Max. Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, s'écriait Claude Guéant pour faire l'honneur au néant de ses convictions, car il retourne sa veste d'ores et déjà, toujours du bon côté, obscur, comme ce moment suspendu et pendu conchon qui s'en dédicace. Toi, pauvre con, reprit Nicolas sans marjolaine, s'adressant à moi avec haine. Il est vrai, j'étais sur le chemin, le mauvais. Un chemin dont jamais on ne revient. Ainsi font les habitants avec du pognon. L'occasion fait le larron. Voulant me nettoyer au Karcher, car je gênais, je ne bougeais pas et répondis tout solaire hilar comme un français révolutionnaire. Bouge de là, ouais, bouge de là. Alors ils ont bougé, ils ont dû s'en aller, partir, bifurquer. Ils ont dû disparaître pour réapparaître sur ces news et les médias Bolloré qui s'offusquaient que justice soit rendue à César, pas la salade, et que ce bon monde aux vilaines intentions de vote irait en prison, sous-entendu sous les verrous, respectant et ainsi disant qu'ils étaient innocents. Car en mode organisé, personne ne peut les canaliser.
C'était beau.
Bravo.
Merci. Alors évidemment, c'est le moment où on fait semblant d'applaudir tout ça. Merci de m'avoir écouté. On repart sur le sport, le sumo. Comment ça marche ? Qui sait qui je suis, le sumo ? Question subsidiaire, bientôt l'ouverture d'un bar à chiens, Camélia ?
Ah, j'aimerais trop.
Ce serait génial.
Ouais. Non, plutôt un restaurant où vraiment les... Mais je crois que ça existe déjà à Paris. Hein. Ouais. Un restaurant où le but, c'est que tu viennes avec ton chien. Tu peux pas rentrer sans chien. Oui, et t'arrives, en fait, tu peux déjeuner avec ton chien. Ça existe à Paris.
Ce qui existe à Lille, qui est plutôt sympa, c'est un concept avec des SPA, par exemple, où tu vas avoir les restaurateurs qui accueillent des chiens disponibles à l'adoption.
Oh, c'est génial.
Et du coup, tu y vas pour rencontrer des chiens qui cherchent une famille.
Tu fais du dog dating.
Tu fais du dog dating.
Non, ça, c'est génial.
Ouais, c'est génial, franchement.
C'est un concept super sympa.
Ça a l'air vraiment... Il faudra qu'on fasse un saut. Il y a peut-être un malinois. Alors, le sumo. Pour commencer, sumo, c'est littéralement se frapper mutuellement. C'est ça que ça veut dire. C'est un sport de lutte japonaise. Le sumo est un sport très ancien, profondément lié à la tradition japonaise et au rite Shinto, une des religions présentes sur l'île volcanique du Japon. Professionnellement au Japon, c'est très, 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 très connu. C'est vraiment extrêmement populaire. Même si les moins de 30 ans maintenant se tournent plus vers le baseball ou le football là-bas, ce fut un sport millénaire, reconnu, grâce à la télé notamment. Par contre, dans le circuit amateur international, on a le droit à voir des femmes. Parce que uniquement au Japon, c'est non mixte, c'est que des hommes et point. Alors le sumo fut mentionné pour la première fois en 712 après Jésus-Christ. Comprendre après Emmanuel Macron.
Dans le...
Chronique des
Non, mais t'es obligé.
Attends. Ouais, d'accord, quand même. Bah, chacun son sauveur. C'est pas le mien, personnellement. Alors, chronique des faits anciens. Donc, l'histoire raconte qu'il y a eu un combat entre deux dieux, bien sûr, et un combat de lutte entre deux anciens lors d'un combat de sumo, les Takemi Katsushi et les Takemi Nakata. Il faut savoir que celui qui a gagné, les Takemi Kazuchi, obtient la possession des îles japonaises. Et c'est ainsi que fut fondée la famille royale impériale issue et encore actuelle de l'empereur. Donc il faut dire que ça remonte très loin, c'est légendaire, vraiment la lutte. Après, ça a beaucoup évolué en 1500 ans, on a eu le temps de faire plein de choses. C'est légendaire. Il faut savoir qu'à l'ère un peu plus contemporaine, grâce à la télé et NHK, qui est une des plus grandes chaînes japonaises, les retransmissions ont un peu changé les rituels, mais c'est comme ça que c'est devenu encore plus populaire dans les années 60. Savoir, c'est un sport qui ne rigole pas.
C'était le dieu du tonnerre avec le dieu du vent qui s'affrontaient. Pour la possession de l'île japonaise. Oui, j'ai vu. Hein, donc c'est bon, j'arriverai pas à le prononcer.
Ah, toi aussi,
c'est,
tu y étais ?
C'est effectivement. J'ai cherché.
Ah, voilà.
Mais effectivement, c'était le dieu du vent avec le dieu du tonnerre qui s'affrontait. En tout cas, qui convoitait une île.
Ouais, c'est ça.
Il la voulait, en fait, tous les deux. Et tu as cité leur nom tout à l'heure, mais c'est effectivement le dieu du tonnerre et le dieu du vent.
Excellent, voilà. Merci. J'avais pas le à qui c'était.
C'est un enrichissement.
Bravo. Alors, c'est très codifié et très rituel. Il faut savoir que au Japon, il y a la Japan Sumo Association, bien sûr. Et dans les rituels qui sont très importants, il faut savoir qu'il y a plein de choses. Alors, on va essayer de faire le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Donc, chaque lutteur entre un par un avant son combat et il y a tout un rituel qui peut durer jusqu'à 2 heures et qui a été réduit à quelques minutes pour la télé. Mais ça peut durer jusqu'à 2 heures. Le stade est plein. C'est vraiment, il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes. Okay. C'est un truc de fou. Les lutteurs rentrent par rang. Celui qui est le plus connu rentre en premier. Le deuxième fait office de challenger. L'arbitre annonce leur nom. Et là, standing ovation de ouf. Après, ils s'installent. Bien sûr, il faut lancer du sel.
Oui, ça, oui, j'ai effectivement.
Vous l'avez le sel ou pas? Ouais. Parce que c'est des tonnes et des tonnes.
Oui,
je suis assez
impressionné. Mais ça vise à se purifier avant le combat, hein, le sel, si je ne me trompe pas. Hein.
Exactement. Ouais. Cela purifie symboliquement l'arène et c'est considéré comme une bénédiction pour éviter les blessures. Alors là, évidemment, ils frappent leurs pieds sur le sol. Le fameux je lève mon genou et brah.
Ouais, ouais, ouais.
Vous comprenez bien. Ensuite, ils tapent dans les mains pour attirer l'attention des dieux. Brah, brah, brah.
Exact, ouais.
C'est assez fou. Ils écartent les bras pour montrer qu'ils ne portent pas d'armes. Genre, je vais t'éclater à main nue, moi, Yakura. Voilà, viens, mon pote. Je te prends quand tu veux. Le jet de sel, c'est juste après. Et bien sûr, les lutteurs se regardent et s'intimident. C'est une phase psychologique qui peut durer longtemps. Mais ils font face en position accroupie, qui est une position qui s'appelle le sunkyo. Et ils se relèvent plusieurs fois. Ils font ils font du teabag, comme on dit dans le jeu vidéo, pour ceux qui ont la ref. Et du coup, ils se lèvent comme ça, coup de pression, coup de pression, coup de pression. Le pagne est réajusté, le pagne qui s'appelle le mawashi. Est-ce que tu as des informations sur le mawashi, peut-être?
Bien, écoutez, j'ai vu que pour les grands professionnels... Donc c'est de la soie.
Voilà.
Pour les petites compétitions et les amateurs, c'est en coton. Ça peut mesurer plusieurs mètres de long. Et
en poids, je crois que c'est assez fou.
J'ai vu que c'était 4 kilos.
Voilà.
Plus de 4 kilos pour certains. Donc c'est assez massif.
C'est fou. Et en plus, ça fait office de ceinture. Et aussi pour cacher les parties génitales. Mais la ceinture sert, quand on se bat, à choper la ceinture.
Agrippé.
Comme un judoka choperait un kimono. Pour pouvoir agripper et bouger l'adversaire.
Mais je trouve ça quand même assez lourd. Parce que, j'en ai jamais pratiqué du sumo. Et je ne pense pas en pratiquer un jour. Mais je trouve que c'est assez lourd, une ceinture de 4 kilos.
Ah oui, c'est épais.
Et en fait, tu dois pratiquer avec. Alors que si ça avait été une ceinture un peu comme en UFC à la fin, où tu la reçois, je veux bien la porter. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, 4 kilos, à quel point c'est lourd.
Ah, mais elle fait partie intégrante, comme le judoka. Hein. Faut savoir, un jogi, donc le kimono, c'est quand même assez lourd, assez épais. Et il y a vraiment ce délire de tu te bats avec ton armure, entre guillemets.
Ouais.
Et après, c'est là où ça devient intéressant. Les deux combattants se mettent face à face, posent les poings sur le sol. Et quand ils posent les deux poings au sol, ça y est, c'est parti, c'est le début du combat. On se lance dessus. On a le droit de se mettre des baffes sur le torse. Et ils le font, ce qui est assez fou. Ils sont très rapides, ils sont méga souples.
J'ai vu,
Et en fait, le poids, puisque parlons du poids, un sumotori moyen, c'est à peu près 150 kilos. Mais le record à 296 kilos pour un sumotori russe, je répète, 296 kilos.
Il faut se rendre compte, le poids sur les articulations.
Voilà.
Les genoux, c'est c'est la partie la plus fragilisée chez les athlètes. Et justement, ils font très attention, ils ont beaucoup de kiné, beaucoup d'assouplissement, justement pour éviter les fractures et les blessures au niveau des genoux.
Oui, parce qu'il faut supporter un poids pareil. Quoi.
Ouais.
296 kilos, c'est 3 mois, tu vois.
T'imagines.
Si on compte en moins, c'est énorme, tu vois. Et pour le coup, pour la règle, le combat se déroule très simplement. Donc on a le droit de se pousser, on a le droit de s'agripper par la ceinture, on a le droit de se projeter, c'est vraiment de la lutte. Mais derrière, il est interdit de se tirer les cheveux, de se frapper du poing fermé, de saisir les parties génitales, ça c'est mal. Les doigts dans les yeux, les étranglements prolongés sont interdits. Ça, c'est la base. Il y a un arbitre sur le dojo, qui est donc ce cercle de sable, qui est le terrain sur lequel ils vont s'affronter. Il y a 5 juges autour. Et le but du jeu, c'est soit on te fait tomber, soit on te jette du cercle. Donc, à part la plante de tes pieds qui est au sol, et c'est là où en fait on en vient à ce que tu disais, les genoux doivent morfler parce que c'est tout ton centre de gravité que tu dois conserver tout en bougeant l'autre. Donc il y a une question de vitesse, il y a une question de frappe, il y a une question de poids, mais il y a des techniques. J'ai lu qu'il y avait plus de 99 techniques possibles pour mettre quelqu'un à terre. Donc autant en Asie, je sais, et c'est le cas en Corée du Sud, la lutte c'est vraiment un sport qui sont ancrés dans la culture. Mais alors le sumo c'est très particulier. Parce que fais-toi charger par un mec de 190 kilos qui t'attrape par la ceinture et qui te fait valser.
J'ai regardé quelques combats et ça dure 2-3 secondes pour certains. Ouais. C'est impressionnant de se dire qu'il y a tout ce rituel avant qui peut prendre plusieurs heures et que le combat en lui-même est d'une rapidité folle.
J'ai lu que la moyenne des combats, c'est 30 secondes max.
Ah, c'est fou.
Et le plus long, j'ai le record, c'est plus de 2 heures.
Quoi ?
Le plus court, c'est une seconde.
Ça s'est passé comment?
Et je pense que une seconde, c'est moi. Voilà, je vais faire. Tu sais, il y a des ateliers débutants. J'ai fait un atelier débutant sumo avec un vrai sumoto. Une seconde, voilà, je t'ai en là. Non, vraiment, au combat officiel, une seconde. Et le plus long, c'est 2 heures. Et pendant 2 heures, ils ont dû se mettre des mandales et se bouger et s'affronter. Ça devait être un délire.
Tu te rends compte, 2 heures d'intimidation
où tu gaines en permanence parce qu'il faut faire tomber l'autre et toi, il faut rester debout alors que l'autre te pousse, te tire dans tous les sens.
Ça m'intéresse, je pense que je vais regarder.
Ouais, faut que tu regardes.
Si le combat
c'est
est
fou.
Disponible en ligne, je vais regarder.
Ouais, tu peux voir, c'est assez ouf. Et après, effectivement, comme on en parlait du poids, alors il faut savoir qu'il existe des catégories de poids pour l'International Sumo Federation, l'IFS, qui fait aussi de l'amateur et qui est aussi international, mais dans le Japon lui-même, je vous laisse deviner s'il y a une catégorie de poids.
En principe, non, il n'y a pas de catégorie de poids, en fait. On t'oblige pas, en tout cas, à prendre énormément de poids quand tu vas être sumo. Après, avec bon sens, j'imagine que tu vas combattre avec quelqu'un du même poids que toi. Hein. Si tu fais 70 kilos, tu ne vas pas combattre avec un sumo de 150, rassure-moi.
L'honneur.
Non, je pense.
Il a insulté ma famille, j'irai.
Non, mais tu veux pas. Par mesure de sécurité, je pense que leur directive leur impose, en fait, un peu comme en boxe, en fonction de ton poids, si t'es léger, plume, etc., ou poids lourd. Mais il n'y a pas de limitation, finalement, il n'y a pas de poids maximal à avoir.
Exactement.
Il y a ce fameux sumo que tu as cité tout à l'heure, qui était à 297, mais j'ai appris, en fait, qu'ils étaient pour les plus. Les plus massifs, ils étaient soumis à un régime assez particulier,
voilà, oui.
Dont l'alimentation quand même peut être assez... en tout cas, ça m'a laissé un petit peu songeuse, parce qu'il ne s'agit pas simplement de manger le plus de calories possible. D'ailleurs, ils sont à 8000 minimum calories par jour, quand tu veux être sumo à poids lourd. Mais surtout, en fait, le choix des aliments qui est fait. Donc, ils partent sur du... du poulet, effectivement. Mais moi, j'ai vu, en fait, qu'ils devaient manger aussi beaucoup de sardines et boire beaucoup de bière, des pieds de porc, beaucoup de riz.
Le pied de halouf, comme on dit.
Des pieds de porc. Non, mais moi, c'est surtout... Je me suis dit, il y a de la bière. Donc, on leur fait boire énormément de bière. Et on leur recommande, en tout cas, après avoir mangé ces 8000 calories, d'aller faire une sieste.
Oui.
Pour en fait
pour
favoriser la non digestion du coup pour favoriser la non digestion et donc pour faire de la rétention de nourriture dans le corps fait
d'ailleurs
ce qui est assez fou.
Avant les matchs, certains boivent 2 litres, 3 litres, 4 litres d'eau,
c'est incroyable,
pour avoir du poids et plus difficile à bouger. Et enfin, dernière anecdote avant d'envoyer le premier morceau, sachez que l'arbitre est armé d'un poignard. Et en fait, c'est un poignard rituel. Et il faut savoir qu'à la base, il a un poignard parce que s'il se passe quelque chose de grave pendant le combat, il est censé s'arakiri. Voilà, je la place, c'est gratuit.
Waouh.
Véridique. Mais bon, c'est jamais arrivé.
Oh oui, c'est jamais arrivé.
Jamais arrivé pendant qu'on avait des caméras. Le déshonneur, tout ça, tu vois.
Mais peut-être que c'était une tradition et qu'ils l'ont un peu perpétué, si tu veux, non ?
Ouais, c'est complètement tradition.
Intéressant.
Et bien sûr, mesdames et messieurs, on va reparler de sumo juste après. Et en attendant, nous allons parler d'un peu. De musique. La musique va se lancer toute seule. Elle parle d'elle-même. La musique est géniale. La musique est superbe. Envoyez la musique, maestro.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know. About your kind, and so and so and so and so and so and so and so, I'll have to play.
Auditrice, auditeur, je suis toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Allegre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter le titre légendaire Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis avec un clip encore plus légendaire. Clip d'ailleurs autobiographique de Mélanie qui est là ce soir. Ça va, Mélanie ?
Bonjour, la femme du 78.
Ah voilà, et c'est toi effectivement. C'est... Franchement, ils ont fait ce clip sur toi, je trouve ça fou. Hein.
Ah non, mais attends, je m'en souviens plus de ce clip. Je vais regarder après.
Oui,
non, mais ça m'intrigue là.
Je te laisse la surprise.
Oui, okay, s'il te plaît, ne me raconte pas.
Et aujourd'hui, mon nom est le Gaijin à la chevelure flamboyante. Oui, tout à fait. On va demander à la spécialiste des effets spéciaux à base de légumes, Camélia, ça va bien ?
Excellent, vraiment excellent. Je crois que c'est l'émission que je préfère aujourd'hui, ce soir, spécialement parce que c'est le sumo.
C'est le sumo.
Parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses.
Ouais, et encore, c'est pas fini, crois-moi.
Il y a encore des choses à dire, et j'en ai aussi.
Plein de choses à dire. Et il y a encore plein de choses à dire sur le sumo. Alors, dédicace à la régie, comme d'habitude, Diego Armando Maradona, ici en légende, bien sûr, avec nous. Et on va parler de Io Ricon, qui a décidé d'exceller dans un sport traditionnel dans son pays où la place de la femme n'est pas du tout admise sur et en dehors du dojo. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. C'est un art martial qui remplit les stades en influence, mais reste une très bonne audience au Japon, même si derrière, de nos yeux d'Européens, il y a vraiment un problème d'égalité sociale sur ce sujet. Alors l'anecdote est simple, pour que vous puissiez réagir tout de suite. Les femmes n'ont pas le droit de faire du sumo et d'être autour du sumo, car vous êtes impures.
Et oui.
Voilà. Et oui. Donc, sorcière de Blair Witch, sorcière de Salem.
Évidemment.
Enfin, comme d'habitude.
Bah ouais. Voilà.
Ah, je vous laisse déjà réagir à ça, pour le coup.
Bah, la place de la femme, c'est à la cuisine.
Ouais, non, mais c'est devenu presque un générique, hein, cette phrase. Hein. Donc, non, mais il y avait. Elles étaient considérées impures aussi en raison de leur cycle
menstruel,
exactement.
Tout à fait.
Et de ce qu'impliquait finalement cette pratique sportive, ce qu'elle implique toujours. Bon, aujourd'hui, heureusement, c'est plus le cas, hein, les femmes peuvent pratiquer, mais c'était la raison initiale qui motivait l'interdiction de la pratique de sumo aux femmes.
Exactement. Et c'était une idée religieuse du Shinto disait que bah, c'est tout blanc et vous, bah, non, en fait. Voilà. Oui. Un avis là-dessus, Mélanie ? Je pense que quand même, truc à dire.
C'est culturel et pratiquement, et religieux pour le coup, donc c'est assez complexe. Ce qui est intéressant dans le cas de Yorikon, c'est le fait qu'elle explique qu'à l'école, on entraîne les enfants au sumo, filles ou garçons. Donc dès l'enfance, on enseigne cet art martial aux petites filles. Et elle donnait son exemple et elle disait que dès le CP, elle battait tous les garçons de sa classe et que ça a été comme ça jusqu'en CE2. Et que naturellement, les filles qui sont douées dans le sumo arrêtent en arrivant au collège. Et elle s'est accrochée à cet art parce que c'est ce qu'elle aime faire. Et du coup, elle trouve, elle, qui vient de ce pays-là et qui a cette culture-là et cette connaissance traditionnelle et cette connaissance des rituels, elle trouve elle-même que c'est injuste. Et elle se bat pour dire que, bah, en tant que femme, aujourd'hui, elle veut pouvoir pratiquer son sport. Et c'est super intéressant à entendre.
Et en plus, le transmettre, parce qu'aujourd'hui, en 2025, elle vit en Argentine et elle est prof de sumo, où elle enseigne effectivement autant aux garçons qu'aux filles. Et ça, c'est génial, pour le coup. Mais oui, je voulais votre avis sur ce sujet, parce que moi, ça m'a un peu choqué la raison pour laquelle les filles ne participaient pas. Après, bon, on sait très bien que faire du vélo, c'est dangereux pour une femme. Faire le marathon, on en parlera tout à l'heure, parce que quand vous courez, vous perdez votre utérus. Bref, que des choses hyper intéressantes. Alors, Yorikon, elle est née en août 1997. Elle est même très jeune, pour le coup, puisque aujourd'hui, elle n'a même pas encore 30 ans, elle en a 28. Elle est née dans la ville de Ajigasawa, dans la préfecture de Aomori, au Japon. Elle commence la lutte de sumo à l'âge de 6 ans, inspirée par l'intérêt de ses frères et sœurs. Et bientôt, elle combat, et effectivement, comme tu l'as dit, en CP, elle éclate tout le monde. Elle fracasse tout le monde. Elle étudie à l'université de Ritsumeikan, où elle suit des études, et des études particulières. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bah, elle étudie le genre.
C'est fou, ça.
Donc, ouais, elle est mobilisée, elle s'intéresse à ce sujet-là, à ces sujets d'égalité homme-femme. Et du coup, ça suit l'engagement qu'elle a dans le sport par la suite.
Et ça, c'est assez fou, parce que dans ma connaissance, à part si toi, tu as des infos là-dessus, ma chère Camélia, parce que tu es plus proche des milieux universitaires que moi, on a ce genre de cours ici, non ?
De genre ?
Ouais.
Alors certainement, aujourd'hui, bon, je suis pas si vieille que ça, mais en tout cas, moi, ma génération à l'université, j'ai pas eu ce genre de cours.
Moi, ça me dit rien.
Peut-être t'en as en sociologie, oui. À mon avis, c'est certain, quand tu fais des études de sociologie, oui. C'est sûr et certain en fait, que tu dois avoir des cours qui portent sur ces chapitres-là, sur ces notions-là. Mais moi, à titre personnel, moi, j'en ai pas eu à la fac. Parce que certainement, ma spécialité faisait je n'avais pas d'intérêt à les étudier. Mais en socio, sans aucun doute.
Ah, bien, parce que moi, c'était... Ça n'existait pas.
Ça existait.
Non, on n'avait pas d'école. Nous, à la mine, direct.
Ouais, d'accord. Allez,
si vous regardez des photos de Germinal, je ne suis pas loin. Alors, le Japon est le seul pays au monde où le sumo est pratiqué professionnellement, régi par l'association japonaise de sumo, selon les anciennes croyances shinto et bouddhistes du sumo. Les femmes ne sont donc pas autorisées à entrer ou toucher le ring de lutte. J'ai une autre anecdote folle. C'était en 2007. Il y avait un maire très connu. Nous sommes au Japon, donc rituel, le stade est plein, les regards, tout ça, machin, on jette du sel. Et le maire a fait un arrêt cardiaque.
Pardon ?
Deux femmes secouristes sont montées sur le doyo. Le doyo, comme on a dit, c'est le terrain avec le sable, pour venir lui faire un massage cardiaque. Il allait mourir quand même.
J'ai peur de
l'arbitre a crié « Sortez de là ! Barrez-vous !» Embrouille de ouf. Ça a fait un scandale dans tout le Japon, puisqu'il y avait d'un côté les traditionnalistes, comment dire, un peu réac, qui disaient « Mais comment ça, des femmes sont montées sur un doyo ?» et des gens qui disaient « Mais il allait mourir !» Et
donc, c'est fou quand même, le poids des normes,
des traditions.
Qui est une norme finalement, en tout cas au Japon, le poids de cette tradition-là qui t'empêche ou qui te fige dans une situation en fait, d'urgence. C'est quand même assez fou de prioriser en fait le respect de cette tradition-là au détriment peut-être de la sécurité d'une personne. Au seul prétexte que ce sont des femmes.
Exactement.
C'est juste ça, hein, le prétexte, c'est que ce sont des femmes. Ouais. Mais secouristes, ils s'en fichent.
Non, c'était pas important.
C'est quand même... C'est fou, en fait, qu'on ait encore, dans certaines circonstances comme celle-là, hein, bon, là, on parle de sport, mais c'est quand même assez fou qu'on ait ça. encore aujourd'hui.
Je suis assez d'accord.
Pour le coup, je trouve l'anecdote drôle parce que je me mets dans la tête de l'organisateur et je me dis, si mes secouristes sont des femmes et qu'elles n'ont pas le droit de monter,
bah oui.
J'aurais peut-être pris des secouristes hommes.
À quoi bon les recruter si dès le départ, mais bon. On postule de leur inutilité.
Moi, je me dis juste un truc. Le mec, imaginez, je fais un arrêt cardiaque, je tombe. Je vois les deux meufs arriver, grand sourire. Ah, vont sauver ma vie.
Oui, il y a un mec qui les empêche de venir. Il est dans l'espoir.
J'ai qu'une envie, c'est me lever, frapper. Laisse-les, je vais mourir. C'est vrai, comme tu as dit, des fois, le poids des traditions est totalement illogique par rapport à la sécurité individuelle ou même collective. Quoi. Donc, revenons sur Iori. Alors, Iori, elle va donc, du coup, grâce à son frère qui l'emmène la première fois à un match de sumo, elle va se dire... C'est ce que je veux faire, je vais tout éclater. À l'université, elle fait partie de l'équipe où elles ne sont que deux ou trois filles dans l'équipe universitaire. Elle va exceller, elle va casser les codes, à tel point que pour pouvoir pratiquer son sport, elle va devoir s'exiler. Donc là, aujourd'hui, en Argentine. Et elle a eu droit à un magnifique court-métrage de 19 minutes, récompensé d'ailleurs en 2018, fait par le réalisateur britannique Matt Kay, qui s'appelle Little Miss Sumo, qui est un documentaire multiprimé. Sur sa pratique sportive. Mmh. Et là, je te laisse en parler car tu l'as vu.
Eh ben, c'est très chouette parce que justement, elle raconte sa vie, donc de sa petite enfance jusqu'à son arrivée au championnat du monde, du coup pas au Japon parce qu'elle n'a pas le droit. Mmh. Mais elle explique en fait qu'elle est obligée de s'exiler du Japon parce que le fait qu'elle est une femme fait qu'elle ne peut pas être rémunérée pour son sport.
Mmh,
et que du coup, exceller dans le sumo au Japon, ça revient à avoir à côté en plus un job pour pouvoir juste se nourrir et survivre. Et du coup, moins s'entraîner.
Ouais.
Donc obligée de partir pour travailler et faire son sport, pour devenir performante. Et du coup, travailler avec... dans le documentaire, elle dit « Je me bats contre des étrangères qui ne parlent pas ma langue, mais ça fait ma fierté. » Et c'était super intéressant parce qu'elle reparlait de toute cette culture et le côté divin du sumo au Japon. Et elle est obligée de sortir de sa propre culture pour s'en rapprocher.
De s'exiler. Hein.
C'était super intéressant.
C'est
le paradoxe.
Parce qu'après, t'en arrives même à un truc qui est fou. Et là, je vais te redonner la parole, Camille, parce que je pense que ça va te parler comme idée. C'est tu dois vivre ta passion et vivre tes traditions, vivre ce que tu es, ton identité nationale, avec des gens qui ne sont même pas de ton pays, en fait. C'est là où tu te retrouves. Comme quoi, le sport dépasse les frontières, d'une part. Mais quelque part, il y a ce regret qui reste. Et je pense qu'elle devait avoir un peu ça, je pense, dans le reportage. Le regret de ne pas pouvoir le faire chez soi, parce que chez soi, c'est quand même
différent.
C'est
l'amertume, en fait. Je pense qu'elle doit cultiver d'une certaine façon, de ne pas pouvoir, en fait, célébrer ce sport qui est originaire de son pays. Et qu'elle se sente obligée de le célébrer ailleurs et donc de le performer ailleurs. Donc c'est presque, je ne sais pas comment elle le ressent, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais moi, en tout cas à sa place, je ressentirais une certaine amertume.
Je trouverais ça difficile,
de ne pas être autorisée par mes propres autorités locales à rendre digne et à représenter, à rendre encore plus digne ce sport dans lequel j'excelle.
C'est ça. Alors du coup, elle remporte la division heavyweight poids lourd des championnats du monde junior féminin en sumo 2014-2015. Elle obtient des médailles d'argent aux championnats du monde féminin de sumo en 2018-2019. En 2022, elle termine deuxième médaille d'argent dans la catégorie open weight, donc effectivement une catégorie où il n'y a pas de catégorie de poids. Toutes les filles peuvent s'affronter de n'importe quel poids au World Games 2022. Elle est connue non seulement pour ses performances sportives, mais aussi pour son engagement, dont on a parlé. Elle milite pour que les femmes puisse accéder à la version professionnelle du sumo au Japon, ce qui reste interdit pour le moment, en tout cas au moment où on parle. En 2025, elle s'est donc installée en Argentine pour promouvoir le sumo féminin. Elle est devenue coach, tout simplement. Vraiment, c'est un énorme parcours, je trouve. Et je vais la citer. Le sumo n'est pas seulement un sport, mais une forme d'expression. Donc, il y a aussi quelque chose qui est assez fou. Alors, c'est quelque chose que je trouve qui est génial, que moi, j'aurais pas. C'est cette pudeur et ce côté tout le temps... bienveillant autour de son sport, que c'est une philosophie. Elle est moins dans l'amertume que moi je le serais de ouf, tu vois. Je me dirais, comment ça, je peux pas le faire chez moi, je serais très frontale.
C'est ce qui transparaît dans le documentaire, elle a un côté très solaire.
Ouais.
Elle a l'air très joyeuse et très fière de son sport. Peu importe le fait qu'elle n'ait pas le droit de le pratiquer au format professionnel, elle est très fière de son sport et très fière de sa technique et... on ressent sa volonté de partager ce sport autour d'elle.
Ouais. Je pense, alors je le dis comme ça, mais en tout cas, c'est ce sport projette un peu, j'ai l'impression que c'est aussi un sport de l'esprit, en dehors du fait voilà, ouais. qu'il y ait une sorte d'intimidation. C'est très mental, mais le fait qu'il ait une origine mystique, d'une certaine façon, je trouve que ça joue énorme. Il y a un poids en fait mystique au début quand tu commences à exécuter ces rituels-là et tous ces rites en fait préalablement au combat. Il y a quelque chose en fait d'assez abstrait finalement, mais que tu dois ressentir. C'est quelque chose de divin hein, qui se passe à l'intérieur.
Ouais, mais il y a une communion.
Mais qu'ils extériorisent finalement avec
sur le terrain. Ouais.
Exactement sur le terrain. Donc
c'est
très
vrai.
Unique. Hein, c'est très atypique et unique comme sport. Hein. Et puis, c'est pour ça que je le trouve intéressant. C'est qu'il y a un croisement de beaucoup de choses.
Ouais, il y a peu de sports qui ont autant de mysticisme et même de. Tu peux trouver des sportifs qui sont croyants et qui sont très forts dans leur sport et qu'ils ont une foi, etc., qui s'exercent dans leur démonstration. C'est le cas souvent de Mexicains, par exemple.
Mexicains, mais c'est souvent le cas au Japon avec les samouraïs aussi. Hein,
oui, parce qu'il y a un code d'honneur. Ouais. Mais que le sport lui-même soit ancré dans le mysticisme, c'est le seul que je connais là de tête.
Ouais, ouais.
Parce que même les arts martiaux, t'as une philosophie quand même derrière.
Bien sûr.
Qui reste toujours liée au bouddhisme
et tout.
Qui
est excellente.
Mais qui n'est pas aussi fort parce que pas autant ritualisé.
Mmh.
Quand t'as un rituel de 2 heures avant un commun de 30 secondes, et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont dit... je cite parce que j'ai vu ça m'a fait rire. Des gens qui ont payé leur place, ils n'ont pas eu le temps de voir le combat parce qu'avant qu'ils s'assoient, c'était déjà fini. Tu vois, c'est il y a un truc, tu vois, t'as vraiment envie de le voir le truc, t'as vraiment envie d'être là, tu vois, tu veux passer le moment.
C'est pour ça, on a vraiment l'impression qu'il y a deux sumo, le sumo japonais.
Voilà, c'est ça.
Et le sumo du reste du monde.
Exact.
Où là, l'objectif, c'est plus la performance sportive,
voilà.
Et où on exclut totalement cet aspect culturel et religieux du sumo, et on part vraiment du principe que là, c'est un combat de lutte. Et c'est ce qui compte. Donc il y a plus, il y a toujours cette notion de les règles sont les mêmes, le combat est le même, mais on va plus avoir l'impossibilité déjà de les vêtements qu'on porte, pardon. On va pouvoir ne plus combattre torse nu.
Oui, exact.
Ce qui est interdit dans le sumo japonais à la base. Donc les codes changent.
Ouais. Non, non, très bien, bonne réflexion. De toute façon, on va se mettre dans un instant. Mais si vous voulez savoir, n'hésitez pas à aller voir ce Little Miss Sumo. Vous pouvez le trouver sur Dailymotion. C'est 19 minutes de bonheur. Et aussi, je tiens à préciser que si l'image du sumo est un peu descendue au niveau des audiences pour les plus jeunes, c'est aussi parce qu'il y a eu notamment cet incident avec les secouristes, dont on a évoqué. Il y a eu aussi, évidemment, un scandale de corruption. Et des gens ont été renvoyés, des gens ont démissionné, des gens ont été déshonorés parce que la mafia japonaise mettait de l'argent dans des paris truqués. Et donc, du coup, vu que c'est un truc très traditionnaliste, je vous imagine le scandale que ça a donné.
Ouais.
Et évidemment, on en parlera une autre fois, mais le bizutage qui était catastrophique. Et dont dont un jeune sumotori de moins de 20 ans est mort d'une crise cardiaque après avoir été tabassé à coups de bouteille et de balai. Donc, il y a quand même un côté un peu sombre. Alors nous, on aime bien le côté lumineux, c'est génial. Mais il y a un côté un peu sombre du sumo. Et c'est aussi pour
coulisses.
Ça que ça a perdu de sa superbe, je pense. Mais on en parlera sur un épisode sur le bizutage. En attendant, Maestro, Diego Armando Maradona, si vous voulez bien, messire, je vous en prie, un peu de musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.
song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Et bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis toujours Cad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission championne. On vient d'écouter un classique, un excellent morceau, extraordinaire, j'ai plus de mots en ex, mais c'était Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Et pour m'accompagner, j'ai toujours Mélanie et Camélia, ça va ?
Excellent, il fait chaud.
Il fait vraiment chaud. Il fera chaud cet été dans les t-shirts et les maillots.
Ah bah, c'est très loin l'été, là. Là, vraiment.
Bah si, là, t'as un petit rime.
Là, on est en été, effectivement.
Voilà. Alors maintenant, toujours pas de sobriquet pour la troisième partie, c'est la règle, bien sûr. Maintenant, nous allons parler de manière libre de ces femmes qui ont investi des sports qui ne leur étaient pas destinés, réservés aux hommes ou tout simplement interdits. Choisissez la formulation que vous voulez. Et d'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire recaler sur des sports que vous vouliez faire parce que vous étiez des filles? C'est le moment témoignage.
À l'école, on ne me passait pas la balle quand j'étais petite et que je jouais au foot dans la récréation. Est-ce que c'est un réel sport
oui.
Les cages, c'était des sacs qu'on posait par terre. Donc,
oui.
On pouvait vite nous dire, vous êtes des filles, vous ne jouez pas avec nous.
Mais c'est... Ouais, bon, bref. Je sais pas... Mais oui, déjà, ça me termine. Alors qu'en fait, quand tu es au collège-lycée, tu as des filles à jouer mieux que des mecs. Moi, j'ai joué avec des mecs de ma vie, il y a des mecs qui étaient vraiment nuls, en fait.
Bah donc, ouais.
Oui, mais en fait, si tu veux, on préjuge parce que c'est des stéréotypes qui sont perpétués et qu'en fait, c'est très difficile à défaire ce genre de stéréotypes. Il faut le faire progressivement, il faut ensemencer une graine dans le cerveau des gens et il faut être très patient. Mais moi, typiquement, j'aimais bien le basket quand j'étais petite, très petite, hein. Entre 8 et 12 ans. Et je voulais en pratiquer et j'arrêtais pas de dire à l'école en fait que j'aimais bien le basket, que je voulais en faire. Et j'avais eu plusieurs remarques où on m'a indiqué en fait que c'était plutôt un sport masculin et que je ferais mieux de choisir un autre sport.
On m'a
proposé la natation. Voilà, donc c'était.
Ouais, c'est-à-dire que même les adultes avaient aussi ce côté.
Même les adultes, ouais. Mais souvent c'était la danse et la natation qu'on me proposait comme sport. Bon, au final j'ai fini par faire du surf, comme ça au moins je parle à personne. Exactement. Mais je voulais faire du basket à la base.
Intéressant. Alors sache qu'entre 8 et 12 ans, c'est l'âge mental des électeurs d'Éric Ciotti. Alors nous allons parler de Catherine Switzer. Nous sommes en 1967, c'est le marathon de Boston. Et comme tu l'as dit, il faut des précurseurs, il faut des gens qui bougent les lignes. Donc on a parlé de Iori Kohn, qui est vraiment grande dame. Mais voici notre dame. Nous sommes donc dans les années 60. La course longue distance, c'est dangereuse pour le corps féminin. Les médecins le disent.
Ah,
une
oui.
femme qui court, c'est un utérus qui tombe par terre.
Bien
et c'est
sûr.
Réellement.
Bien sûr.
C'est réellement, je l'ai lu, hein, c'est réellement ce qu'il disait.
La descente d'organes
cours,
juste sur l'utérus.
Voilà, l'utérus par terre. Donc, comme c'est dangereux pour la population apparemment et le renouvellement de population, c'est interdit. Donc, il se passe un truc extraordinaire et j'adore Catherine Switzer. Vraiment, c'est une icône maintenant du féminisme, cette dame. Elle s'inscrit sous les initiales KV Switzer en 1967 au marathon de Boston. Elle va courir avec son petit ami et son entraîneur. Son entraîneur n'était pas chaud. Il a dit « c'est quand même, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée ». Il n'était pas contre qu'elle le fasse, mais il trouvait que c'était un peu dangereux. Et c'est un magnifique et superbe abruti de juge qui va essayer de lui retirer son brassard et le coach et son petit ami vont le taper. Voilà. Il va y avoir bagarre sur la piste et elle va finir le marathon de Boston en 67 et grâce à elle, vous avez le droit de courir et à partir de 1972, c'est officiel, c'est il n'y a pas si longtemps, les femmes ont le droit d'aller au marathon de Boston.
1972.
Voilà.
Wow.
Merci à elle.
Voilà, je la place.
Donc avant,
c'est fou comment c'est récent en vrai, tu vois.
On ne pouvait pas.
Non. Avant, t'avais pas le droit. Ton utérus, il tombe par terre, t'as pas le droit.
Tu savais le nombre de conneries en fait qui ont été dites notamment par des psychiatres qui considéraient en fait qu'il fallait mettre sous traitement les femmes 8 jours avant leurs règles et pendant leurs règles. Oh, donc il y a un traitement, oui, ça c'était prévu par le DSM, je ne sais pas si c'était le 2 ou le 3 à ce moment-là, mais ça a été fait par un certain nombre de psychiatres qui considéraient que voilà, devaient être sous traitement pour pouvoir calmer leurs nerfs et leurs frustrations. En tout cas, c'était ce qu'on avançait, et que en raison du changement d'humeur que les menstruations peuvent provoquer chez certaines femmes, eh bien ça valait le coup en fait de créer un médicament pour pouvoir stabiliser ces humeurs-là. Et on a mis ça dans, on a inscrit ça dans le DSM, tu sais, le fameux manuel où tu as toutes les pathologies psychiatriques, où tu as la bipolarité, la schizophrénie, etc. Exactement. Mais ils ont fait la même chose pour les homosexuels. Ouais, ils ont considéré que c'était une pathologie psychiatrique dans les années 70. Donc quelque part, quand j'entends « oui, l'utérus va tomber si jamais elle court », je me dis on est au même niveau d'absurdité que ce qui se passait.
Mais attends. Je fais une parenthèse avant de parler des autres filles, parce que j'en ai sélectionné certaines, et je veux votre avis. Mais c'est surtout, attends, t'arrives à envoyer des gens sur la Lune. Et tu penses qu'une meuf, son utérus, il tombe ? Est-ce que tu te rends compte le niveau qu'il faut pour faire atterrir une fusée sur la Lune, d'accord ? D'envoyer des êtres humains là-haut poser un drapeau, c'est les qualités techniques et intellectuelles qu'il faut. Et tu me dis qu'à côté, il y a des gens qui disent bah, ouais. Si tu cours, Mélanie, ton utérus, il tombe. Ou peut-être même ta fesse, on ne sait pas.
Après, à la même époque, on pensait que l'utérus n'était pas accroché dans le corps et qu'il se baladait. Il pouvait aller jusqu'au cerveau, et c'est ce qui faisait que du coup on était un peu zinzin de temps en temps.
Ouais, et ça pouvait, ça ressortait comme un ectoplasme, tu vois, genre, tu vois, c'est délire. Oui. C'était un ectoplasme à la fin.
Allez, je continue avec Billie Jean King, rien à voir avec la chanson, mais on est en 1973.
J'ai cru au début.
Et il faut savoir qu'il y a un match en 1973 très connu que je ne connaissais pas, mais en faisant l'émission sur le tennis, j'ai trouvé cette anecdote qui est folle. Donc on a Bobby Riggs, qui est un ex numéro 1 mondial très macho. C'est un Américain. Il est macho man. Voilà,
oh, okay. J'ai failli chanter, hein, mais j'ai pas osé.
Et du coup, il connaît Billie Jean, qui elle est une grande sportive et surtout une grande championne de tennis, qui est encore un peu amateur à cette époque. Et du coup, par presse interposée, il lui dit « Eh, vas-y, je te prends sur le terrain quand tu veux ». Et elle accepte. Et ce sera un match qui sera diffusé à la téloche. Le Battle of Sex, Bobby Riggs contre Billie Jean. Et vous savez quoi ? Devant 90 millions de spectateurs, elle l'a lynché.
Humiliation.
Elle l'a éclaté.
Humiliation.
Tu peux le redire ?
Non, je vais m'abstenir.
Non, mais il était bien. Un petit cheu. Et grâce à elle, ça déclenchera l'égalité salariale à l'US Open, les plus gros tournois des États-Unis de tennis, pour avoir le même prix en salaire pour les femmes comme pour les hommes. Et voilà, Billie Jean King.
Est-ce que grâce à elle... C'est grâce à elle qu'on a eu le morceau Billie Jean.
Je pense que soit son nom.
Est-ce qu'il y a un lien ?
Bah oui, je pense.
Ok, je pense qu'il y a un lien.
Je pense qu'il y a des gens qui ont appelé leurs enfants Billie Jean, mais en tout cas très connu. J'ai aussi Danica Patrick, IndyCar. Alors c'est, vous savez, il y a un rond, il y a des voitures et les voitures elles roulent en rond. C'est un sport américain.
Oui.
Donc on est en 2005. Longtemps considéré trop dangereux et exigeant physiquement pour les femmes, parce que femme au volant.
Mort au tournant.
Et je check. Voilà, très connu. Eh bien, du coup, elle a décidé en 2005 de dire non, moi j'ai envie de jouer un peu parce que je sais conduire. Et elle devient la première femme, 2005, à mener les 500 miles d'Indianapolis, qui est la course en rond la plus célèbre. Et en 2008, elle remporte même la course Indy Japan 300, première victoire féminine en monoplace de haut niveau. Et elle a fait, pour réussir ça, vous dites, mais comment elle a fait ? Elle a fait plus de 10 ans de karting, c'est une pilote émérite. Elle a fini en fait par elle-même d'aller chercher des sponsors qui voulaient lui donner une voiture à conduire. Elle s'est battue comme une ouf. Et depuis, eh ben, elle est célèbre aux États-Unis. Et aux États-Unis, on se dit qu'une femme a le droit de prendre le volant. Et ça, c'est quelque chose pour un pays comme les States.
Magnifique.
Voilà, donc vous avez le droit de conduire.
Et d'ailleurs, pour petite anecdote, j'étais au karting il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et en première position, c'était une fille.
Oh.
Ouais, c'était, je crois que par tour, elle devait faire 50 secondes. Derrière, c'était des garçons. Enfin, moi, j'étais même pas dans le top 10, hein, autant te dire, mais c'était une fille en première position.
Mais il faut savoir une chose, parce que ça m'a toujours intrigué, c'est ce préjugé de conduite n'a aucun sens, puisque moi, personnellement, je vous le dis, en karting, je peux tuer des gens. Je ne sais pas conduire, je n'ai pas de notion de distance, je suis un danger public avec un volant.
Mais faut aimer conduire.
Donc, je pense que... ça n'a rien à voir avec le genre, tu vois.
Faut aimer conduire. Je pense qu'elle, elle était vraiment passionnée de karting. Hein. Mais 50 secondes, c'est peu.
C'est rapide.
Faut aimer conduire, et comme tout sport, c'est de l'entraînement.
C'est de l'entraînement, ça s'apprend. Ouais.
Fille ou garçon, tu t'entraînes, tu mets vraiment de la volonté, de la rigueur. Il n'y a pas de raison que parce que tu es une fille, tu ne puisses pas être bonne en karting.
Bah ouais. Surtout qu'en fait, c'est un sport qui est assisté mécaniquement. T'as un véhicule, je vois pas l'intérêt de... Tu vois, pour moi, c'est ça qui n'a pas de sens. Encore, t'aurais une question de physique. Et encore, il y a des physiques dans le monde. Tu peux trouver des filles qui ont des physiques qui valent celui des mecs dans tel ou tel sport si elles s'entraînent. Donc en fait, finalement, ça dépend un peu, tu vois. Mais avec l'assistance moto, vélo, quel rapport, tu vois. Enfin, bon. Ce n'était que mon avis. Allez, un petit dernier, parce que celui-là, je l'aime beaucoup, c'est le patinage artistique, comme on a parlé de Soria Bonali. Donc, nous sommes en 1908. C'était il y a longtemps, c'est le patinage artistique.
Oulala.
Je vais vous parler de Madge Sayers. Donc, on est au début du XXe siècle. La catégorie de patinage artistique, vous ne le saviez pas, mais c'était uniquement des hommes au championnat du monde. Il n'y avait personne d'autre qui avait le droit de faire du patinage. Vous, vous étiez interdite, d'accord? Vous n'aviez pas le droit de faire du patinage. Laissez-nous, les hommes, faire du patinage.
Parce qu'on était impurs ou parce qu'on était nuls cette fois?
Écoute, apparemment. Il y avait une tradition viriliste du patinage en compétition, c'est vrai. Et en 1902, au championnat du monde de patinage masculin, Madge Sayers s'inscrit, parce que dans les statuts, il n'est pas interdit de participer en tant que femme. Les mecs prennent le seum et ils se disent « Non, mais elle participe, Mélanie, elle va terminer deuxième. »
Incroyable.
Et donc, c'est un choc pour les hommes. Ils disent « Oh !» Et du coup, bizarrement, en 1906, 4 ans plus tard, ils vont dire « C'est bon, vous avez une catégorie à vous. Laissez-nous tranquille. C'est bon.
» On ne se mélange plus.
C'est fini. Vous nous avez mis à l'amende. On ne veut plus en entendre parler. Terminé. Et je trouve cette anecdote forte parce qu'on a vraiment une meuf qui est une craque, qui arrive deuxième au championnat du monde et les mecs, en panique, disent « Tenez votre tournoi. Laissez-nous, s'il vous plaît. »
Voilà. Mais juste par rapport à cette femme qui est arrivée deuxième, j'imagine qu'elle devait faire du patinage artistique en amateur et qu'elle elle concourait avec des gens qui, eux, étaient professionnels, donc avec des hommes qui étaient professionnels.
Tout à fait,
d'accord.
Exactement.
Donc ça veut dire que le niveau d'entraînement, en fait, on était sur un rapport qui était presque inégalitaire en termes d'entraînement, je parle.
Ouais.
Peut-être pas les mêmes infrastructures, voilà, exactement. Pas les mêmes infrastructures, peut-être pas la même occurrence en fait, d'entraînement finalement. Elle a quand même réussi à être deuxième.
Ouais.
C'est incroyable.
Mais ce qui est incroyable, c'est pourquoi il n'y a pas un film sur cette dame. Moi, je veux, cette histoire-là.
Mais ça se trouve, il y en a. Ça se trouve, il y en a. Il faut,
Mais je veux un vrai film, tu vois. Tu me mets une grande
c'est
actrice.
C'est assez impressionnant, c'est assez surprenant.
En plus, le public, il est mûr là, pour ce genre d'histoire. Tu vois, ce genre d'histoire incroyable. Moi, tu vois, comme Billie Jean qui fracasse l'auto-tennis. Moi, je veux des films sur ça, tu vois. On est là à nous mettre des biopics. Alors, j'aime beaucoup. Comment ça s'appelle Freddie Mercury et autres. Et j'adore les biopics. Mais pourquoi on n'a pas des biopics sur ces sportifs, tu vois? C'est hyper intéressant. Ces histoires, ça me fait vibrer. Tu te dis, est-ce qu'elle va réussir à pas réussir? Elle fait deuxième. Grâce à elle, on ouvre carrément le patinage artistique aux femmes du monde entier. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un truc petit. C'est-à-dire toutes les femmes du monde entier maintenant font du patinage. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'ironie du sort, quand on parle patinage artistique,
on pense tout de suite que c'est un sport féminin.
C'est vrai.
Donc en fait, la tendance est inversée.
C'est fou.
Ouais, c'est vraiment l'ironie. Ouais.
Ironie du sort. Alors bien sûr, j'en avais encore plein. Mais là, je vous laisse réagir sur ça pendant une minute ou deux. Et après, on pourra dire. Faire nos adieux aux auditeurs. Non, je déconne. C'est juste normal. Alors,
pour le coup, moi, je pense à une jeune femme dont j'ai entendu parler ce matin, qui s'appelle Dunia. On peut la suivre sur Instagram en ce moment. Moi, je vais la suivre dès ce soir. Ouais. C'est Dunia LHR sur Instagram. Elle est sportive. Elle est incroyable. Et là, elle s'est mise en objectif principal de réussir à devenir la première femme qui réussit la croix de fer en gymnastique. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la croix de fer.
Ça me dit un truc, mais vas-y, explique.
C'est une discipline et une pratique uniquement réservée aux hommes en compétition aujourd'hui.
Ok.
Parce que la condition physique pour réussir à faire cette pose est folle. Vous êtes dans un gymnase, vous avez deux cordes attachées au plafond et deux anneaux.
Okay. Ah si, je vois.
Il faut porter son poids et réussir à faire la croix avec son corps avoir un angle de 90 degrés entre le bras et le corps.
Et ça, c'est réservé exclusivement aux hommes ?
C'est pas réservé aux hommes, mais en fait, jusqu'ici, aucune femme n'arrive à le faire.
Okay.
Et du coup, il n'y a pas de compétition. Si vous regardez les JO, cette épreuve-là, elle est exclusivement masculine.
Oui, c'est vrai. Les anneaux, c'est que les garçons.
Et en fait, elle a apparemment fait une vidéo où elle montrait ce qu'elle faisait et elle a reçu un commentaire, j'imagine, d'un homme qui lui a dit qu'elle était timide, sa posture sur cet agrès-là. Et du coup, elle s'est dit, l'objectif, c'est ça. Et en ce moment, elle est coachée pour réussir à le faire et elle travaille dessus actuellement.
Je pense que c'est tout à fait faisable avec de l'entraînement.
Bien sûr.
C'est
pas impossible.
Elle s'entraîne dur et c'est assez...
À moins que ça demande un taux de testostérone que la femme n'a pas. Mais
pas
en dehors de ce cas-là, j'arrive pas en fait à
Non, non, c'est une position et c'est juste un angle, tu vois. Donc, il faut juste de la force dans les bras.
C'est
ouais,
ça.
Ouais.
Et évidemment,
intéressant.
Sûr, tu peux rappeler
C'est Dounia LHR, je vérifie pour ne pas dire de bêtises.
Très bien.
Mais oui, c'est
excellent.
Ça.
Excellent. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin et ça va être le mot de la fin. Alors, du coup, je remercie évidemment LYFM 93.1 pour nous laisser faire cette émission. Évidemment, Diego Armando Maradona ici à la technique, bien sûr. Vous deux, hein, Camélia, bien sûr.
Merci à toi. C'était vraiment très sympa, cet épisode sur le sumo.
Oui, et je tiens à dire que c'était le premier test à trois. Voilà, parce que d'habitude, on est deux. Donc, on retentera, machin. Merci, Mélanie, de t'être déplacée du fin fond du 78.
Merci.
Ça va, ça t'a plu ?
C'était très chouette.
T'as kiffé ?
Ouais, j'ai trop kiffé.
Ah, tu reviendras ?
Bien évidemment.
Voilà, excellent. Alors du coup, pour la Fédération Française de Sumo, elle n'existe pas, parce que c'était la Fédération Française du Judo qui prenait le sumo en charge, mais ils ont abandonné. Ils ont dit non. Par contre, il existe à @Paris_Sumo, le seul club sumo de Paris, car le deuxième est à Perpignan. Et ils sont 25 à le pratiquer en France.
Oui, j'ai vu, mais en fait, ça reste quand même un sport très amateur qui est pratiqué en amateur en France. On n'est pas encore... mais c'est en train de se développer, à prendre un petit peu d'essor.
Oui, parce qu'en fait, ils arrivent à participer... en fait, ils sont intégrés à la Fédération Française Solidarité Travail. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, ça leur permet justement de ce club d'être
validé. De se greffer.
Et d'aller sur des championnats.
Et de se greffer, ouais.
Et c'est très cool. Et j'ai vu, on est à peu de pratiquants de sumo en France, mais c'est assez cool. Pour suivre IoriCon, c'est @con_Iori sur Instagram. Nous, évidemment, c'est @championne_l'émission sur Instagram, évidemment. N'oubliez pas la PETA, parce qu'on aime les animaux, @PETA. Et bien sûr, la page Facebook Quiz de foot de mon ami Damien, un ami qui vous veut du bien. Voilà, vous avez exactement 30 secondes pour faire le mot de la fin. Camélia, en premier, vas-y, mot de la fin.
Hormis des remerciements, moi j'aurais une question, c'est est-ce qu'on pourrait aller visiter ce fameux restaurant Dog...
Oui, Dog Dating.
Dog Dating, exactement. Ça m'intéresse énormément. Quitte à prendre un train pour aller à Lille.
Oui, c'est pas si loin.
Oui, effectivement. Donc ça m'intéresse. Ce serait le mot de la fin et j'invite tout le monde en fait à aller regarder en fait ce que c'est, parce que c'est intéressant pour ceux qui aiment les chiens et qui aiment les animaux de manière générale, les meilleurs amis de l'homme. Voilà.
Team Malinois. Le
Team
mot
Malinois.
Moi, j'ai envie de répondre à Camélia, on peut tout à fait
avec grand plaisir. Prenons un billet.
Vous êtes invités, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, on ira à Lille ensemble. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de votre présence, tous les deux. Merci pour la régie. Que la force soit avec vous. Des bisous. Et comme dirait le général, vive la France, vive la République.
Vive la République.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.